protestants au pluriel, des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.
Bonjour, protestants au pluriel, Yolande au micro pour vous faire découvrir la richesse du protestantisme français. En effet, nous allons à la rencontre des églises et membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'église protestante Vie et Lumière, tzigane évangélique, représentée par Mario Holderbaum, secrétaire général. Bonjour Mario.
Bonjour Yolande.
Comme d'habitude, on va commencer par le slogan, si vous en avez un, qui définit le mieux votre église.
Alors, le slogan qui définit le mieux notre église, c'est un cantique que l'on appelle un vêtement blanc.
Oh, c'est joli ça.
Oui.
Et
donc,
c'est
on chante ça depuis le début du réveil de notre église. On est une jeune église, hein,
oui.
1952. Ouais. Et en 1952, il y a ce cantique qui a frappé le cœur des gens qui ont levé notre église avec les plus vieux de nos pasteurs, Clément Lecossec et bien d'autres. Et puis, ce cantique a été adopté comme un peu notre hymne national.
Et qu'est-ce qu'il dit en une phrase, on ne va pas dire tout.
Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Voilà, c'est un très beau cantique qui nous appelle à la gloire de Jésus-Christ.
Oui, parce que vous, votre église, le symbole de votre église est très dépouillé. J'aime beaucoup d'ailleurs ce symbole, ce logo avec la tente,
oui.
Et puis la croix au-dessus.
Oui.
C'est un très grand dépouillement, justement. Alors ça va...
La tente, ça nous rappelle le début de Vie et Lumière, puisque les gens du voyage étaient des gens qui voyageaient sur toute la France. Il n'y avait pas d'église en dur à l'époque. Et donc, il fallait trouver des endroits pour se réunir. Effectivement, ça a commencé avec des petites toiles de tente. Et puis, les toiles de tente ont grandi. On a poussé nos cordages. On a élargi nos cordages jusqu'à avoir aujourd'hui un très grand chapiteau. Le plus grand chapiteau d'Europe, paraît-il. Et ça représente bien le style gens du voyage qui se réunit dans ces tentes avec la croix au-dessus, qui est notre église roulante.
Mais il n'y a pas que des gens du voyage dans cette communauté tzigane, il y a aussi les sédentaires.
Tout à fait.
Et alors, donc, globalement, vous représentez combien de personnes? On ne va pas demander très précisément, mais en gros...
Alors, en gros, les dernières estimations, Vie et Lumière représenterait entre 130 et 150 000 membres en France. Mais Vie et Lumière, c'est beaucoup de pasteurs parce que aucun de nos pasteurs sont salariés.
Ouais.
Il n'y a que 3 salariés chez Vie et Lumière, le président, le secrétaire et le trésorier. Tous les autres sont des pasteurs bénévoles qui ont une activité salariale, souvent des artisans, des commerçants. Et donc de ce fait, étant donné qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des églises en dur pour toutes les ethnies des gens du voyage, on est arrivé à 420 églises. Donc, on a pour principe de mettre un pasteur pour 50 membres. Donc, ce qui fait que nous avons beaucoup, beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, on est à 2850 pasteurs pour Vie et Lumière, avec des pasteurs responsables d'église, donc un pour 50 membres, mais aussi des aumôniers de prison,
oui.
Aussi beaucoup de missionnaires à l'étranger, puisqu'on est sur 44 nations dans le monde. Donc beaucoup de missionnaires qui s'en vont un peu partout pour prêcher l'évangile. Et donc, c'est quand même assez nombreux, mais tout le monde a une fonction au sein de notre église.
Et vous savez à peu près combien vous représentez en pourcentage de tziganes français?
Oui. Alors, on estime qu'on est à 2/3, 1/3. Parce que...
Alors, 2/3
2/3, 1/3, parce que les gens du voyage en France, au dernier recensement, représentent à peu près 450 000 personnes de la population française.
D'accord.
Et nous, si on estime qu'on ne comptabilise que les adultes baptisés par immersion,
mm-hmm.
On ne comptabilise pas la famille. Donc, si on voulait comptabiliser les familles, on serait à peu près à 300 000 personnes qui sont issues de l'Évangile.
D'accord. Et donc, les gens qui sont du voyage et les sédentaires, c'est à peu près la même population, la même proportion, pardon.
Alors non, dans nos églises, on a beaucoup plus de gens du voyage que de membres sédentaires. Par exemple, chez moi, c'est 10% de l'église qui sont que membres des membres qui sont sédentaires, 90% des gens du voyage. La particularité, c'est que sur les 2850 pasteurs, on a 300 pasteurs à peu près qui sont issus de la communauté sédentaire, qui ne sont pas des gens du voyage.
Alors, on a parlé de votre église et vous-même, donc Mario Olderbaum, vous vous considérez comment? Comme le pilote du bateau, le bâtisseur du temple, le gardien du troupeau?
Non, je me considère comme un berger, le pasteur, le gardien du troupeau, mais pas du tout un bâtisseur. Moi, j'ai fait que la continuité. Les bâtisseurs sont les pionniers qui ont levé notre église en de 52 à 62, 64, 66, avec notre première école biblique. Ces gens-là étaient les bâtisseurs. Moi, je suis dans la continuité de ceux qui ont œuvré, qui ont construit.
Vous pouvez rappeler brièvement la genèse de Vie et Lumière, donc vous parlez de 52, donc 1952, qu'est-ce qui s'est passé?
1952, un pasteur sédentaire de l'Église des Assemblées de Dieu rencontre pour la première fois des gens du voyage. Et à partir de ce moment-là, il se dit pourquoi ces gens-là, on les laisse sur le côté, pourquoi on ne leur parle pas de Jésus-Christ, parce que les gens du voyage avaient beaucoup de difficultés à avoir des sacrements. C'était tout juste si on voulait faire leur sépulture. Donc c'était hyper compliqué. Et quand Clément Lecossec a rencontré un petit groupe pour la première fois, il leur a parlé de Jésus-Christ. Et tout de suite, ils ont vu que ce Jésus qui leur était apporté était un Jésus qui était à leur portée et qui pouvait côtoyer chaque jour. Donc ça a fait un peu boule de neige dans les familles en 1905. Ça a commencé en 1950, en fin de compte, à Lille. Clément Lecossec rencontre ces gens-là. Par la suite, en 51, la même famille rencontre un autre pasteur des Assemblées de Dieu, le pasteur Guichenard, à Lisieux. Et là, il y a une guérison divine, un miracle extraordinaire. Et en 52, Lecossec retrouve ces mêmes familles à Brest. Et pour la première fois, sept personnes passent par les eaux du baptême par immersion à la place Saint-Marc de Bresse.
Et dans votre église, quelle action vous paraît centrale? La prière, l'aide au prochain, les deux?
La prière, l'évangélisation et l'aide au prochain.
Et alors, cette évangélisation, elle se fait comment? Par quel biais particulièrement?
Elle continue dans les 44 pays que j'ai nommés tout à l'heure, dans le monde entier. Aujourd'hui, Vie et Lumière se trouve dans les pays les plus lointains, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, même en Australie, en Inde. Donc, des pasteurs sont envoyés dans ces pays et ils regroupent des gens du voyage, puisque des gens du voyage, il y en a dans le monde entier. Et on leur témoigne de Jésus-Christ, des transformations de vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, de bouleversant. Après le mur de Berlin, à la chute du mur de Berlin, eh bien, les pays de l'Est se sont ouverts et aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se sont données à Jésus-Christ dans les pays de l'Est.
Et vos convictions fondamentales, donc on a compris que Jésus-Christ était au centre de votre foi, qu'est-ce que vous avez comme conviction fondamentale à côté, si je peux dire?
Conviction fondamentale, en rencontrant Jésus-Christ, une chose qu'on ne savait pas auparavant, c'est que Jésus, n'est pas resté cloué sur une croix, mais il est ressuscité. Et avec cette résurrection, il nous apporte la vie éternelle.
Et vos valeurs, les valeurs qui découlent de ces convictions?
Alors, les valeurs qui découlent de ces convictions, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus grand des miracles chez nous. C'est des conversions véritables. C'est des gens qui sont transformés, qui changent de vie. Excusez-moi du mot, mais les alcooliques ne boivent plus. Les drogués ne se droguent plus. Les voleurs ne volent plus, surtout plus des poules, ni les enfants. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment une transformation, quelque chose de véritablement une nouvelle naissance. Et on n'a pas besoin de parler, simplement avec notre façon d'être, les gens peuvent comprendre qu'il y a quelque chose qui est changé en nous.
Donc votre façon d'être constitue un témoignage et en quelque sorte une théologie. Est-ce qu'il y a aussi une théologie théorique, des études? Comment ça se passe pour
bien
les pasteurs?
Sûr, bien sûr. Bien sûr, je pense que quand quelqu'un... c'est très structuré chez Vie et Lumière. Déjà, on est une église avec loi de 1905, avec un conseil d'administration, avec un président, secrétaire, trésorier, des membres du conseil. Chaque membre du conseil gère une région en France, a des églises sous sa responsabilité, des pasteurs sous sa responsabilité. Et puis, quand quelqu'un a le désir de vouloir se mettre au service de Dieu pour devenir pasteur, bien, il faut savoir qu'il y a un long chemin, un petit peu le parcours du combattant. Déjà, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ depuis très tôt. On attend 5 ans avant d'engager quelqu'un. Quand il a rencontré Jésus, avant de l'engager dans le ministère pastoral, il faut que cette personne ait 2 pasteurs pour le former, un pasteur d'église et un pasteur de mission d'été avec les petits chapiteaux. Il faut qu'il fasse 4 années d'école biblique. Seulement au bout de la 4e année, il sera reconnu prédicateur. Et 6 ans après être prédicateur, seulement il peut être pasteur et prendre en charge une église.
On va voir maintenant le concret de votre église. Mais avant, je voudrais vous poser une autre question. Quel est le message que Vie et Lumière peut apporter au monde? Et quel est le message que vous voulez apporter au monde?
Rencontrer Jésus-Christ bouleverse une vie, change une vie. Les voleurs ne volent plus, les buveurs ne boivent plus, et c'est des vies transformées.
Et donc, je reviens donc au concret de Vie et Lumière. La forme du culte dans votre église, comment ça se passe un culte? Est-ce que vous êtes sage comme dans une messe catholique? Est-ce que vous êtes plus participant comme dans un culte évangélique? Comment ça se passe?
C'est un culte évangélique.
Oui.
C'est plus bruyant, c'est, oui. C'est plus vivant, comme vous l'avez dit.
Oui.
Donc, je vous parle du culte du dimanche qui commence à 10h et qui théoriquement devrait finir à 12h. Mais qui se termine plutôt souvent vers 12h15, 12h30. On déborde toujours un petit peu. Il y a une première partie de chant avec des cantiques qui sont un petit peu mouvementés, souvent à la guitare, parce que la guitare, c'est l'instrument de musique privilégié chez les gens du voyage.
C'est plus facile à transporter qu'un orgue.
Tout à fait, exactement. c'est des chœurs et cantiques, c'est un temps de prière avant le message, c'est le message de l'évangile. Ensuite, après le message de l'évangile, participation à la Sainte Cène tous les dimanches. Après la Sainte Cène, encore un temps de louange, l'offrande biblique, et on termine avec la prière.
Et qu'est-ce que votre Église apporte d'abord à vos fidèles? Vous avez dit une conversion.
Oui. Mais elle leur apporte pas que ça, elle apporte aussi la réconciliation dans les cœurs et dans les familles. Car chez les gens du voyage, c'est un tempérament impétueux, on est des véritables méditerranéens, quoi, un petit peu en quelque sorte. Donc il y a du sang dans les veines qui bout de temps en temps, et dans beaucoup de familles, il y a eu pas mal de rancœurs, de catastrophes. L'Évangile raccommode un petit peu ces familles. Quand on arrive à Jésus-Christ, le pardon est là, et c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et à la société, qu'est-ce que vous apportez?
Eh bien, un changement de vie. Les stéréotypes doivent tomber au jour d'aujourd'hui. On n'est plus des voleurs de poules.
Mais est-ce qu'ils tombent vraiment? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils tombent, ces stéréotypes?
Alors, de notre côté, on essaie de les faire tomber.
Oui.
Après, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec toujours la peur de l'autre, c'est pas toujours évident. Mais il y a quand même ce mais. Quand on nous connaît et quand on nous côtoie, on commence à nous apprécier et on voit le changement.
Et votre relation aux autres, alors, est-ce que vous pensez qu'on ne peut trouver Dieu qu'en Jésus-Christ ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs?
Non, on peut trouver le Dieu qu'en Jésus-Christ.
Et avec les autres protestants, comment votre relation avec les autres églises protestantes?
C'est courtois, fraternel, mais je pense qu'avec certaines églises, il y a plus d'affinité qu'avec d'autres.
Et les catholiques?
C'est très difficile avec les catholiques parce que auparavant, les gens du voyage étaient issus du catholicisme et de profondes blessures durent encore.
Oui. Et le monde, est-ce qu'il faut s'en tenir à l'écart du monde ou est-ce que vous êtes partisan des échanges avec le monde laïque, si on peut dire?
Je crois qu'on n'a pas le choix. On vit dans un monde laïque. Donc, de toute façon, on est obligé d'échanger avec les uns et avec les autres.
Et alors maintenant, je vais poser une question plus précise. Comment votre Église voit la place des femmes? Alors, est-ce qu'il y a une place spécifique ou bien est-ce que c'est il y a ni homme ni femme?
Alors non, il y a des places bien spécifiques pour les femmes. Donc chez nous, on est une de nos églises où les femmes ne prêchent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée essentiellement par les hommes, mais les femmes ont quand même une grande responsabilité dans l'Église. Par exemple, ce sont les femmes qui font l'école du dimanche aux enfants, ce sont les femmes qui font et qui organisent leurs réunions de prière entre eux dans les églises. Donc, il y a des rôles bien spécifiques chez la femme, sauf la prédication.
Elle est plus responsable de la transmission auprès des enfants.
Oui, tout à fait. On peut dire ça.
Et les violences sexuelles, est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez eu connaissance de problèmes? Est-ce que vous vous engagez dans la prévention?
Alors, je pense que s'il faudrait s'engager dans la prévention, on le ferait, mais à ma connaissance, je n'ai pas d'écho de violences sexuelles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Probablement, il y en a, comme dans tous les milieux, mais je n'en ai pas connaissance. Il y a très peu de divorces chez les gens du voyage. Très, très peu. Mais même chez ceux qui ne sont pas des évangéliques, il y a très, très peu de divorces chez les gens du voyage. On se marie très jeune. Généralement, c'est la mort qui nous sépare.
C'est intéressant. Et vous l'attribuez à quoi, ça, ce fait que...
À la famille.
À la famille,
oui,
à l'importance de la famille.
Oui, l'importance de la famille, oui.
Et vos défis, alors, quels sont vos défis? On a déjà parlé du regard des autres, des préjugés qui collent à la peau. Est-ce que vous avez d'autres défis, des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous...
Oui, bien sûr, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Ce qui empêche de faire avancer Vie et Lumière, c'est les moyens financiers. Parce qu'on est quand même issu d'une population avec un revenu très bas. Et donc, effectivement, on ne peut pas demander à ceux qui n'ont pas grand-chose de donner plus. Donc, on est peut-être l'église évangélique, une des églises évangéliques les plus importantes de France, mais on est surtout la plus pauvre.
Et vous avez d'autres défis que cette pauvreté ?
Continuer à évangéliser. Continuer à évangéliser là où il y a des gens du voyage. J'aimerais vous donner un petit mot de notre premier pasteur, pasteur Clément Lecossec, qui était issu de la communauté, qui n'était pas issu des gens du voyage. C'était un sédentaire qui a consacré sa vie aux gens du voyage. Et il nous disait, évangélisez votre peuple, évangélisez les gens du voyage, mais quand vous trouvez un bon nombre de sédentaires qui veulent écouter l'Évangile, apportez-leur l'Évangile. Ne faites aucune distinction. Moi, je suis ce qu'on appelle dans notre langue un gadjo. Je vous ai apporté l'Évangile. Apportez l'Évangile à tous ceux qui le veulent.
Un gadjo, c'est un nom...
Un nom du voyage.
Oui. Et vos projets, on a bien compris, continuez à évangéliser.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres directions, d'autres ambitions, d'autres...
Que le plus grand nombre soit sauvé avant que le Seigneur revienne.
c'est un beau projet. Vous n'avez... les relations avec les gens qui vont toujours au Sainte-Marie, comment ça se passe? Vous avez parlé de blessures.
Oui.
Est-ce qu'il y a quand même une compréhension? Est-ce qu'il y a ce...
Il y a des relations familiales.
Ouais.
Il peut y avoir dans des familles beaucoup de gens. Moi je suis le seul évangélique dans ma famille. J'ai un frère et une sœur qui ne sont pas évangéliques. J'ai des relations avec eux. C'est mon frère, c'est ma sœur. Moi, je suis l'aîné, je prends soin de ma sœur, je prends soin de mon frère. Je les aime de tout mon cœur. Et ils ont fait un autre choix de vie comme le mien. Ils ont préféré garder leur tradition. Parce que chez les gens du voyage, quand on est catholique, on n'est pas catholique fervent. Mmh. On est plutôt un traditionnaliste. J'ai rencontré un prêtre un jour, un ami personnel, qui venait chez moi et avec qui on a beaucoup échangé. Et qui me disait, Mario, tu sais, au jour d'aujourd'hui, on rencontre chez les sédentaires ce que vous avez vécu pendant de nombreuses années. J'ai des chrétiens de 4 saisons, donc je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Alors il dit, je les vois une fois au baptême, une fois à la communion, une fois au mariage, une fois à l'enterrement.
Oui, effectivement. Est-ce que vous avez, et vous en avez, et vous allez nous en donner au moins une, j'aimerais bien une belle histoire de conversion.
Une belle histoire de conversion?
Oui.
J'en ai deux.
Ah ben deux, c'est parfait.
J'en ai deux. Deux frères de chair qui se sont tournés à Jésus-Christ, qui se sont tournés vers Jésus-Christ à quelques mois d'intervalle. Il y en avait un qui était un bagarreur infini. Avant de le baptiser, il a fallu qu'il aille se réconcilier avec 18 personnes de sa famille. C'est quand même pas mal.
Oui.
Aller se réconcilier avec 18 membres de sa famille avant d'accepter Jésus-Christ. Je lui ai dit, je ne te baptiserai que lorsque tu t'auras réconcilié. Jésus a réconcilié ta vie avec Dieu. Donc tu dois pardonner et te réconcilier. Il l'a fait. Son propre frère a commencé à boire à l'âge de 20 ans. Il a pris une seule cuite dans sa vie, elle a duré 15 ans. À 35 ans, il a rencontré Jésus-Christ.
Ouais.
Aujourd'hui, il ne boit plus un seul verre.
Et vous avez parlé de l'aumônerie de prison.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de tziganes qui sont en prison. Et quel est le travail qui est fait et quel est le résultat qui sort de ce travail?
Alors, beaucoup, c'est un grand mot.
Il y en a, bien sûr.
J'aimerais rappeler un mot de l'ancien aumônier national des prisons et de la fédération, qui un jour m'a dit, Mario, pour vous, les gens du voyage qui sont en prison, c'est un terreau extraordinaire pour semer l'évangile. Effectivement. La prison, c'est l'enfer. La prison, c'est la séparation de tout. La prison, c'est des gens qui pleurent. La prison, c'est des gens qui sont dans l'angoisse. Et quand ces gens-là, on leur apporte Jésus-Christ, sincèrement, que ce soit une personne du voyage qui prêche l'évangile ou une personne du milieu sédentaire qui prêche l'évangile à des gens du voyage en prison, eh bien, c'est quelque chose de favorable. Le cœur est meurtri. Et quand un cœur est meurtri, Jésus-Christ est capable de faire encore plus sa demeure à l'intérieur. Je peux vous donner des dizaines de témoignages des gens qui ont rencontré Jésus-Christ en prison et qui aujourd'hui ont changé complètement de vie.
Et les barrières tombent avec les autres prisonniers. Vous parlez de terreau. Est-ce que ces gitans qui se convertissent, est-ce qu'ils font tache d'huile autour d'eux ou est-ce que ça reste dans le milieu tzigane?
Je ne sais pas si vous avez été déjà dans une prison.
Non.
Non. Dans une prison, il n'y a plus de gitans, il n'y a plus de sédentaires. On est à 4 dans un 9 mètres carrés et il faut arriver à se tolérer les uns les autres. Donc, il n'y a plus de barrière en prison.
Il n'y a plus de barrière. Et vous retrouvez cette absence de barrière dans vos cultes quand vous faites de l'évangélisation?
Bien sûr.
Oui. Vous savez quelle population qui vient plus particulièrement chez vous? Parce que je ne demande pas des statistiques, mais je demande toujours des histoires personnelles plutôt.
Oui. Chez les gens du voyage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs ethnies, hein. Il y a plusieurs ethnies, mais au jour d'aujourd'hui, toutes les ethnies, les 5 ethnies des gens du voyage, sont vraiment touchées par l'évangile. Donc, moi, personnellement, chez moi, je vais parler de l'église où je suis pasteur, puisque c'est celle-là que je connais. J'ai toutes sortes de personnes qui font un mélange et qui font un bouquet de fleurs extraordinaire. J'ai des fleurs de couleur magnifique dans l'église. J'ai des gens qui viennent de la Martinique, j'ai des gens qui viennent de la Guadeloupe. J'ai un de mes pasteurs qui est marié avec une Guadeloupéenne. J'ai des gens du voyage qui sont très foncés de peau, des gens du voyage qui sont très clairs de peau. L'évangile, c'est pour toutes les couleurs. Jésus-Christ est venu pour apporter la grâce à tout le monde. J'espère avoir des Asiatiques un jour.
Alors, en conclusion, vous faites partie, donc, Vie et Lumière fait partie de la Fédération protestante de France.
Oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Vie et Lumière est arrivé à la Fédération protestante en 1975. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. ils ont trouvé auprès de la Fédération protestante des grands frères, des grandes sœurs, en parlant des églises, des grands frères en parlant des pasteurs et des grandes sœurs en parlant des différentes églises, des gens qui ont pu améliorer leur quotidien, leur expliquer beaucoup de choses, comme quoi on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé. Et au jour d'aujourd'hui, on est très fiers de participer et d'être membre de la Fédération protestante. Vous savez, quand il a fallu faire un choix un jour avec une autre institution qui s'est levée, Vie et Lumière n'a pas voulu participer à ces institutions et rester fidèle à la Fédération protestante et n'a pas voulu se partager avec d'autres mouvements.
Et qu'est-ce que vous apportez ? Donc on sent qu'il y a un attachement très fort. Mais qu'est-ce que vous avez conscience d'apporter à...
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à moi de poser la question. Il ne faut pas me la poser. Je pense qu'il faudrait plutôt la poser à d'autres.
Ben je vais poser la question. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter ? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter justement au gadjo ? C'est comme ça qu'on
dit ? Au gadjé ?
Au gadjé, d'accord. Bon, au gadjé, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Vous avez certainement des choses
oui,
à apporter.
Oui, je pense qu'on a des choses à apporter, oui. On peut peut-être apporter un peu plus de joie dans les cultes, comme vous avez dit tout à l'heure.
C'est une bonne idée.
Un peu plus de sonorité, un peu plus d'exaltation, peut-être. Maintenant, voilà, je pense que... vous savez, des enfants sont élevés dans un foyer. Quand ils sont élevés dans un foyer, jusqu'à l'âge de leur maturité, avant de prendre leur envol, ils sont fidèles à ce foyer. Ils ont une éducation dans ce foyer. Peut-être que l'éducation va changer avec l'âge. Je pense que nous, on a beaucoup évolué. Maintenant, je n'ai pas la prétention de faire évoluer les autres. Je pense que chacun a le droit d'avoir son tempérament et sa façon d'être.
Et comment les autres protestants pourraient vous aider, les autres églises protestantes ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles vous aident suffisamment ? Est-ce qu'il y a une écoute ? Est-ce qu'il y a un partage ? Est-ce qu'il n'y en a pas assez ?
Non, il y a une écoute, il y a un partage, et on est vraiment aidés. Sincèrement, on ne remerciera jamais assez les personnes de la fédération qui nous ont aidés sur beaucoup de domaines, les présidents successifs et ceux qui sont plus présidents mais qui continuent de nous aider au jour d'aujourd'hui. Je pense à Jean-Arnold de Clermont qui a été président et qui continue à être le président d'APADZI, l'association de défense des gens du voyage. Et non, je de ce côté-là, nous sommes reconnaissants pour l'aide qu'on nous a amenée.
Et vous avez l'impression, de ce côté-là, que les barrières sont tombées, au moins. Il n'y a pas de préjugés ou il y en a peu auprès des protestants.
Les barrières sont tombées auprès des gens qui nous connaissent.
Oui.
Voilà. Je pense que pour les autres, peut-être qu'encore, il y a peut-être parfois des réticences. Je dirais pas des barrières, mais peut-être des réticences par rapport à la méconnaissance. Mais quand on nous connaît, ces barrières, puisque vous avez employé le mot, eh bien, tombent.
Je me permets de vous dire que, de vous signaler que la radio à Montpellier, FM+, donne la parole et l'antenne à l'église Vie et Lumière locale pour une émission une fois tous les deux mois avec un grand plaisir.
Je m'en réjouis, mais à savoir qu'à Montpellier, il n'y a pas qu'une seule église Vie et Lumière.
Ah bon ?
Non. L'église Vie et Lumière avec laquelle vous avez des contacts, c'est une église Vie et Lumière avec des gitans catalans à l'intérieur. Mais il y a des gitans espagnols, des églises spécifiques gitans espagnols, des églises spécifiques manouches, roms, et tous les mélanges.
Alors là, il faudrait qu'on fasse une émission parce que je me suis jamais vraiment posé la question, la différence entre tzigane, gitan,
ouais,
rome,
ouais.
Mais
tzigane, c'est le mot qui englobe tout.
Qui englobe tout. Donc c'est celui qu'on a utilisé, c'est celui qu'on continuera d'utiliser
voilà.
En attendant de se renseigner. Alors je vous remercie beaucoup, Mario Holderbaum, d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc que vous êtes président de Vie et Lumière.
Secrétaire,
excusez-moi. Donc, tzigane évangélique. Et qu'on peut trouver plus d'informations sur votre site internet vieetlumiere.net.
C'est bien ça.
Et je dis au revoir à nos auditeurs. À bientôt pour découvrir une nouvelle facette de protestants au pluriel.
Au revoir, à bientôt.
Protestants au pluriel. Des convictions qui dialoguent, un engagement qui résonne.